Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires.
Il y a ce grand mythe que tout le monde serait plus heureux en couple, que tout le monde finirait par être en couple aussi à un moment dans notre vie, que toute la vie doit passer par le couple romantique, mais pourtant, partout en France, dans d'autres sociétés, des manières de faire famille différentes existent, sont expérimentées et se déploient en ce moment, et c'est justement ce que je raconte dans l'ouvrage.
Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Alice Rebaud. Bonjour Alice.
Bonjour Lisa.
Je te reçois aujourd'hui pour le livre « Nos puissantes amitiés ». Il va être question d'amitié, mais de plein d'autres choses. Et avant de parler de ce livre, on va se présenter. Alors, je me situe. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. J'ai 43 ans, je suis une femme grosse, je suis actuellement valide, c'est-à-dire je ne suis pas en situation de handicap. En termes de classe sociale, je suis une transfuge de classe, donc mes parents étaient plutôt dans la classe ouvrière, classe moyenne, et moi, par mon parcours, je suis devenue une CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, une cadre dans la communication qui gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me situe dans la minorité de Français qui gagne cette somme, source Observatoire des inégalités. Et je suis célibataire. Voilà, donc c'est un canevas un peu long, tu peux préciser autant ou beaucoup moins comme tu veux.
Alors moi, je suis Alice Rebaud, je suis journaliste et autrice. J'ai 26 ans, je suis une femme cisgenre, bisexuelle. Je suis en couple lesbien avec une femme. Je suis donc, de par ma profession, d'une catégorie sociale très privilégiée. Je viens moi-même d'une famille CSP+, avec deux parents médecins. Et j'ai grandi dans la ruralité, assez loin des villes, dans le sud-ouest de la France. Et je suis une personne blanche.
Très bien, merci pour toutes ces précisions. Nos puissantes amitiés, donc ce livre qui est sorti très récemment, nous sommes en février lors de l'enregistrement, forcément il m'a parlé puisque depuis quelques années déjà, je dirais que c'est au moins depuis MeToo je pense, et peut-être encore avant, il y a ce mouvement de, il n'y a pas que le couple dans la vie, il n'y a pas que les relations amoureuses dans la vie, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur le sujet que tu cites notamment, et donc si on enlève le sujet couple comme objectif, et famille comme objectif, la famille qu'on a eue et la famille qu'on peut se créer, il y a la famille qu'on se crée de base, qui est une autre famille, qui est tout aussi importante, voire plus parfois, les amis. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'écrire sur ce sujet ?
C'est deux choses. D'abord, en tant que journaliste, moi, je travaille au Monde et je documente les jeunesses. Et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée aux questions d'intime liées aux jeunes générations. Et j'ai vu monter un petit peu ces dernières années cette question-là de l'amitié qui revenait un petit peu par petites touches partout dans mes entretiens, dans les articles ou les podcasts que je pouvais écouter, sans que ce soit vraiment le sujet principal mis en lumière à part entière. Mais cette envie, voilà, de revendiquer, comme tu le disais, d'autres liens que simplement l'amour romantique, la possibilité, voilà, de célébrer notamment les liens d'amitié, de pouvoir faire lien, faire solidarité autrement. C'était quelque chose que je voyais émerger, une sorte de mouvement, une sorte de force aussi dans le mouvement féministe. Et j'ai été assez frappée, en même temps qu'il y avait ce mouvement-là qui montait, du vide aussi de textes qui pouvaient exister sur le sujet et du vide aussi, étonnamment, dans les études féministes sur la question de l'amitié. Donc, c'est le premier point qui m'a donné vraiment envie d'écrire sur le sujet. Et puis, je pense qu'en tant que féministe, il y avait aussi cette volonté pour moi d'ouvrir le champ des possibles, de montrer, notamment à travers de nombreux témoignages, parce que le livre repose sur beaucoup de témoignages de personnes qui s'engagent en amitié de différentes manières, pouvoir montrer voilà, qu'il y a diverses manières de faire lien, de faire famille, de penser des projets de vie à long terme qui ne se limitent pas au seul couple romantique, qui ne se limitent pas à voilà, cette idée de l'amour romantique qu'on nous apprend depuis petit et peut-être surtout petite à poursuivre un petit peu comme la quête prioritaire d'une vie, comme le seul moyen d'accomplissement. Et donc voilà, je voulais montrer qu'il y avait d'autres chemins possibles aussi, qui étaient tout aussi valable, parfois aussi plus joyeux en réalité et plus émancipateur.
Et puis, on voit que dès le départ, toi, tu as un rapport à l'amitié qui a évolué. Qu'au départ, peut-être, tu n'osais pas forcément montrer toutes tes vulnérabilités et tu ne sais pas trop comment ça a bougé. Tu peux un peu expliquer ?
Oui, je me suis vraiment rendu compte un petit peu par contraste avec ce que j'ai découvert ensuite de l'amitié un petit peu sur le tard, du rapport plutôt timide que je pouvais avoir à mes relations amicales plus jeunes et notamment dans l'adolescence, au collège, au lycée, puis au tout début de ma vie de jeune adulte. J'étais perçue et aussi peut-être un petit peu étiquetée comme une personne introvertie et je pense que je m'étais un petit peu construite avec cette idée qu'une personne introvertie ne pouvait pas forcément avoir accès à des amitiés très puissantes, très profondes, très significatives. Et je pense que je m'en étais fait un petit peu une raison, d'une certaine manière, ce qui faisait que dans mes liens amicaux, j'étais parfois un petit peu gauche. Je sentais que j'étais pas totalement dans une forme de laisser-aller qui, je crois, est propre aux amitiés et à ce qu'elles peuvent nous apporter aussi comme espace finalement de liberté et d'émancipation aussi. Et ça, je l'ai découvert un petit peu plus sur le tard, cet espace-là d'émancipation. J'ai fait des rencontres il y a quelques années de ça qui ont un petit peu en moi tout bouleversé et qui m'ont montré toute la richesse justement qu'on peut trouver dans nos amitiés, ce qui peut se passer aussi dans ces liens quand on est justement dans le laisser-aller, quand on baisse ses défenses et qu'on s'autorise aussi à se dire que ce sont des liens où on peut grandir, où on peut se grandir.
Alors moi j'ai un rapport très différent à l'amitié, c'est que ayant 5 frères, j'ai pas eu de sœur, ma maman a fait tout ce qu'elle a pu, elle a pas réussi. J'ai tout de suite été vers des filles à l'école pour essayer de trouver celles qui allaient devenir mes sœurs. J'avais vraiment cette idée-là, même si je le nommais pas, je le verbalisais pas avec elles comme ça, mais pour moi c'était les sœurs que je n'avais pas. Mes cousines n'étaient pas les sœurs que je n'avais pas, vu que je les voyais pas assez souvent. Il fallait forcément que ce soit des gens que je vois à l'école tous les jours. Et voilà, pensez pour elles qui sont encore là aujourd'hui. On a gardé contact. Et tu en parles dans le livre. Il y a dans les regrets des personnes sur leur lit de mort. Il y a une étude sur le sujet. Je vous mettrai les références. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais j'ai pas assez travaillé. Ça, c'est sûr que c'est jamais dedans. Mais l'un des plus grands regrets, ou peut-être le plus grand, c'est je n'ai pas assez vu mes amis, je n'ai pas pu, je n'ai pas su.
Je n'ai pas su. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre des dynamiques sociétales aussi qui un petit peu nous empêche d'entretenir pleinement, de nourrir pleinement nos amitiés. Tout joue dans notre espace social contre nos relations amicales, ce qui fait qu'on peine à les nourrir, à en prendre soin, vu qu'on nous encourage plutôt, arriver à l'âge adulte, à vraiment investir pleinement la sphère du couple, ou en tout cas la quête de l'amour romantique, parce que tout le monde n'est pas en couple, et c'est important aussi de le rappeler, mais cette idée-là de il faut trouver le prince charmant, il faut trouver l'amour, est une question obsédante, puisqu'on a aujourd'hui une forme d'obsession sur l'amour romantique, presque une religion de l'amour romantique qui fait que c'est censé être notre quête prioritaire dans laquelle on investit tout notre temps, quitte à délaisser par ailleurs le reste de nos relations intimes, le reste de nos relations d'amour au sens large, parce que moi je considère que les amitiés sont des relations d'amour. Et notamment, voilà, quand on se met en couple, l'idée qu'il faut passer 80% de son temps avec son conjoint, que l'entièreté de nos projets de vie doivent être pensés avec le conjoint, que par ailleurs, avec l'arrivée notamment du premier enfant, les études montrent bien que ça entérine les ruptures amicales. Voilà, le couple romantique tel qu'il est pensé aujourd'hui contribue vraiment à nous isoler et à nous couper de constellations variées autour de nous. Donc c'est vrai quand ces personnes, justement, dans cette étude, parlent de ce regret-là, de ne pas avoir nourri leurs amitiés, je crois qu'il se joue quelque chose de profondément sociétal derrière, qui n'est pas seulement personnel.
Oui, parce que c'est vrai que si on n'a pas le temps, on ne consacre pas ce temps-là, bah, ça s'étiole. Ça ne veut pas dire aussi, parce que ça, tu le précises, qu'il y a des amitiés où on va essayer de se voir autant que possible, et d'autres, on se voit pas aussi souvent possible parce que c'est pas possible. En fait, les gens sont loin ou autre. Mais c'est pas pour autant que les amitiés ont disparu. On peut maintenir le lien différemment. Il y a pas de. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas ce jugement entre bah, elle, je la vois, ou lui, je le vois vraiment très souvent. Donc, c'est un vrai ami. Et l'autre, c'est un ami de seconde zone. Il n'y a pas ce truc-là, je trouve, dans le livre.
Oui, oui, l'idée d'entretenir nos amitiés, de les nourrir, ça ne veut pas forcément dire voir la personne toutes les semaines. Je pense qu'en fait, on a différents liens intimes, différents liens d'amitié qui peuvent être extrêmement différents des personnes qu'on a rencontrées sur les bancs de l'école, et qui nous suivent depuis toutes ces années, un peu comme toi, pour une partie de tes amis. Il y a les personnes auxquelles on parle tous les jours par message, puisque maintenant, même les nouvelles technologies nous permettent d'avoir ce contact quotidien. Et puis, il y a les personnes qu'on rencontre une fois tous les deux mois, par exemple, pour aller faire un resto, pour aller faire un ciné, et qui, en fait, sont tout aussi importantes. Et je crois que il ne faut pas créer de hiérarchie dans les relations. Et ce qui m'intéresse aussi, et c'est aussi pour ça que je donnais pas forcément de définition vraiment très nette de l'amitié dans mon ouvrage, c'est que j'ai vraiment l'impression que le mot amitié est vraiment très mince en fait finalement pour décrire une quantité relationnelle extrêmement vaste, extrêmement variée. Et donc on ne peut pas restreindre justement ce terme-là.
Alors justement, en parlant de vocabulaire, il y a un mot que j'ai lu dans ce livre que je commence à voir poindre à droite à gauche, qui est amatonormativité. Alors, le concept vient de Elizabeth Brake, donc je vais vous lire la définition. Alors, amatonormativité. L'hypothèse répandue selon laquelle tout le monde serait mieux dans une relation exclusive, romantique et à long terme, et que tout le monde rechercherait une telle relation. Je m'arrête là, mais justement, ça pose question. Est-ce que vraiment tout le monde a envie de ça? Eh ben non. Donc finalement, ça remet en cause toute la société, si c'est pas ça l'objectif de vie.
Oui, je pense qu'en fait, on nous apprend aussi par notre imaginaire culturel, par l'entièreté de nos adages aussi sociétaux, à nous faire croire un petit peu à ce mythe-là que, encore une fois, il faudrait absolument trouver sa moitié, avec ce terme-là de moitié, comme si on n'était vraiment pas déjà entier pour soi-même, quoi, finalement. Mais en effet, ça exclut du champ, déjà ça pousse beaucoup de personnes à se forcer aussi dans cette quête, dans ce marché de la séduction, dans cette quête de l'amour romantique à tout prix, alors que pourtant l'amour romantique, mais peut-être autant que certaines amitiés en fait finalement, n'est pas donné à tout le monde, ne vient pas forcément sur notre chemin à tout moment de la vie, et que on peut aussi construire de manière différente nos vies intimes, et ça exclut ce concept-là que tout le monde devrait absolument trouver l'amour romantique et s'en trouverait bien plus heureux, bien plus complet. Ça exclut du chemin toutes les personnes qui n'ont pas de pulsion de couple, que toutes les personnes qui ne se retrouvent pas justement dans le modèle conjugal, ni même parfois dans le modèle amoureux, que sont notamment les personnes aromantiques, certaines personnes asexuelles, qui en fait déploient par ailleurs dans leur vie beaucoup de créativité, beaucoup d'ingéniosité pour créer des manières de faire lien, des manières de faire solidarité qui sont bien plus diverses et bien plus vaste en fait que le seul couple romantique, même si du coup ces liens-là, intimes, autres, qui se vivent hors de l'amour romantique, ne sont pas protégés, ne sont pas valorisés par la société. On ne peut pas construire de manière aussi sereine que dans le duo romantique des projets d'habitat, des projets de parentalité, des projets parfois aussi de vieillir ensemble à plus de deux, alors que pourtant ces projets-là en fait ils existent, et c'est aussi ça qu'il faut dire, je pense, c'est que il y a ce grand mythe que tout le monde serait plus heureux en couple, que tout le monde finirait par être en couple aussi à un moment dans notre vie, que toute la vie doit passer par le couple romantique, mais pourtant, partout en France, dans d'autres sociétés, des manières de faire famille différentes existent, sont expérimentées et se déploient en ce moment, et c'est justement ce que je raconte dans l'ouvrage.
Oui, puis ça colle avec les études qui sortent, là au moment où on enregistre, il y a une certaine génération qui découvre que les jeunes, alors les jeunes, ça n'existe pas.
Oui.
Voilà, il y a plein de jeunes différents.
Pour travailler sur les jeunesses, je sais qu'il vaut mieux dire les jeunesses que la jeunesse, hein, ça c'est sûr.
On est bien d'accord. Et je vois des journalistes s'extasier de façon positive en disant j'aime bien cette génération-là. Stop dedans. Il y a Thaïs aussi, enfin, représentante Rassemblement National. Il y a aussi des masculinistes. Il y a une variété de jeunes. Et en tout cas, dans la dernière étude, donc c'est IFOP pour Libération notamment, il y a ce sujet que les jeunes, en tout cas une grande partie, ils le disent plus facilement, ont moins de rapports sexuels par choix. Il y a plein de choses qui remontent. L'un des éléments qu'on a beaucoup dit ici dans Single Jungle, parce que ça remonte de plus en plus, en particulier depuis le Covid, c'est l'élément de la flemme. Assumons la flemme, que ce soit un critère de se dire « Ok, aller vers l'autre, et c'est positif, c'est prendre la personne en considération. Est-ce que je me sens assez fort ou forte pour faire ça? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai la santé mentale pour le faire ?» Non. Donc tout ça a saupoudré de flemme, d'écran aussi, la présence des écrans a joué. Et puis pour certaines personnes, il y a j'ai suffisamment d'imaginaire ou de support pornographique éventuellement, et c'est ça qui me convient. Et où il y a aussi l'autre partie où, en fait, je ne ressens pas ce type de désir et je n'ai peut-être pas trouvé les bonnes personnes pour accepter l'intimité que je souhaite sans forcément qu'il y ait de contact physique. Donc ça, toi qui travailles sur les jeunesses, c'est quelque chose que tu voyais poindre depuis quelque temps déjà ?
En tout cas, cette volonté de se détacher du tout sexuel, de justement un petit peu cette révolution sexuelle qu'on nous a vendue, qui est en fait débouchée davantage sur des impératifs, sur des injonctions à faire sexualité justement plus que sur une forme de liberté. C'est ce que raconte notamment Talma Desta dans son ouvrage « Désiré à tout prix » et qui est justement une voix de cette jeune génération qui commence à s'interroger justement sur ces frontières de l'intime, sur les injonctions, les impératifs qu'on nous impose et qui du coup s'interroge, est-ce que j'ai un désir sexuel très important? Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est problématique ou pas? Et pourquoi on m'a fait croire que c'était problématique de ne pas désirer forcément avoir énormément de relations sexuelles ou de vouloir au contraire relationner avec des personnes sans qu'il y ait ce spectre sexuel entre nous, ni même le spectre de la séduction. Et ça fait partie des réflexions justement qui mènent après ces jeunes générations, en tout cas une partie de ces jeunes générations, à venir vouloir revaloriser d'autres liens d'intimité. Ça va de pair aussi, je crois, avec toute une interrogation qui a pris du regain autour du modèle du couple hétérosexuel dans le sillage notamment de MeToo, avec voilà, tout ce qui a été mis en lumière, des dommages patriarcaux, notamment tout ce que les femmes ont à perdre dans le couple hétérosexuel, à la fois à l'intérieur du couple, mais aussi dans la quête à l'amour romantique, tous les plis émotionnels, parfois même financiers, que ça importe. Je crois que tous ces ingrédients-là amènent voilà, une réflexion sur quelles sont un petit peu nos constellations autour de nous, sur quel lien est-ce qu'on a le droit de reposer, qu'est-ce qu'on nous autorise finalement, quelles sont un petit peu les bases socles sur lesquelles on nous autorise à nous reposer, est-ce qu'elles ne sont pas finalement un petit peu restreintes, et est-ce qu'on ouvrirait pas le champ.
Ça recoupe parfaitement avec cette idée de pirater le modèle du couple. Alors, pourquoi ce terme de piratage ?
J'aime bien cette idée de piratage. Je crois que Fatima Wassak l'utilise aussi pour la question écologique, avec cette idée de venir hacker finalement à la fois des espaces politiques, mais aussi des imaginaires. Il y a beaucoup cette question-là de l'imaginaire qui revient dans le travail de Fatima Wassak sur ouvrir d'autres espaces culturels aussi, finalement, pour penser la vie, pour penser nos luttes, pour penser la manière dont on s'engage dans le monde. Et oui, voilà, j'avais envie peut-être d'ouvrir d'autres imaginaires dans ce chapitre-là, de montrer qu'on pouvait venir pirater ce seul duo romantique qu'on nous présente comme la seule fin de notre vie, la seule manière de construire l'espace social aussi, parce que tout est organisé dans notre espace social autour du modèle conjugal, économiquement, fiscalement, nos politiques du logement aussi, qui sont construits autour de la famille nucléaire, donc c'est-à-dire un papa, une maman, deux enfants dans son pavillon individuel qui vit, voilà, comme ça, éloigné un petit peu du reste du monde d'une certaine manière. Et je raconte des personnes, voilà, qui ne veulent plus se contenter de ce seul modèle-là qu'on nous présente et qui décident, voilà, de s'engager justement dans des projets de long terme avec des amis. Ce sont des personnes, notamment des femmes et notamment hétérosexuelles, qui décident par exemple de se paxer entre amis pour célébrer et puis entériner aussi le soutien émotionnel et le soutien matériel qu'elles peuvent s'apporter. Il y a des personnes qui se marient aussi entre amis, des personnes qui décident de repenser l'habitat, des personnes qui décident de repenser le soin aux enfants, qui décident de repenser l'organisation de leurs vieux jours et qui disent en fait, voilà, je n'ai pas besoin d'attendre le prince charmant, je n'ai pas besoin d'attendre The One pour construire ma vie, pour faire des projets signifiants, pour avancer.
D'ailleurs, je rebondis sur The One. Je crois que c'était une chanson de Robbie Williams que mon ex, que je salue, aimait beaucoup. Et je lui disais, ça n'existe pas, The One. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas un. C'est un mythe. Alors, c'est super si ça marche pour certaines personnes. Passion Stat, c'est très peu de personnes, vraiment. Et moi, je trouve que c'est super positif qu'il n'y en ait pas qu'un, parce que si ça se trouve, on l'a loupé, ça se trouve, la personne va disparaître de notre vie, et bah, c'est terminé. Voilà.
La fenêtre de tir serait vraiment très mince, quoi.
Si, mais qu'est-ce qu'on fait après, quoi? C'est comment on se remet de ça? Bah non, moi, je trouve ça génial d'avoir plusieurs possibilités.
Et puis, plusieurs possibilités en même temps, c'est-à-dire de se dire, voilà, notre constellation d'amour autour de nous, elle peut être vaste, elle peut être variée. On peut avoir un partenaire romantique, parfois plusieurs partenaires romantiques. On peut avoir, par ailleurs, vivre des projets avec des amis en parallèle, certains projets avec certaines amies, d'autres avec d'autres. Voilà, et partager, distribuer, en fait, finalement, tous les espaces de notre vie de manière un peu plus créative que ce qu'on nous encourage à faire aujourd'hui.
Et du coup, la parentalité, c'est un des sujets qui est évoqué assez longuement, avec plein d'exemples. On voit que depuis que la loi sur la PMA a bougé, donc en 2021 en France, on s'imaginait peut-être que ce serait surtout des femmes lesbiennes qui seraient allées vers cette démarche-là.
Parce que c'était elles aussi qui avaient beaucoup combattu, pour, enfin, qui ont permis à ce droit aussi d'émerger.
Tout à fait. Et merci à elles, merci pour ce combat qui continue, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de centres, il y a trop d'attentes. Enfin, c'est toujours pas au niveau, hein, mais on ne sait jamais s'il y a des gens du gouvernement qui nous écoutent. Mais bah, finalement, même si bien sûr les femmes lesbiennes sont concernées, notamment celles en couple, il y a aussi des femmes célibataires hétéros qui se sont dit, bah, on peut décorréler finalement ce besoin, cette envie d'être mère, le décorréler du couple. Parce qu'on nous a mis ça dans la tête. Tu feras un bébé quand tu seras en couple, quand tu auras trouvé le bon père, le bon partenaire. Et attendant et faisant leur vie, ben, on ne trouve pas. Et moi, je trouve ça très bien qu'on ne fasse pas de bébé avec la première personne venue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se condamne à attendre et éventuellement à partir à l'étranger pour congeler tout ça. Enfin, il y a plein de démarches. Je vous mettrai les épisodes sur lesquels on a parlé de ça. Ben là, maintenant, de plus en plus, il y a des voix qui émergent. Je pense notamment à Julie Duportail pour raconter le parcours et puis aussi dire, ben, je vais avoir besoin d'un village autour de moi pour me soutenir. Et ce village, souvent, ce sont des amis.
Oui, ce sont les amis, ce sont voilà tous les liens d'intimité qu'on peut avoir autour de nous. Et je crois que pouvoir se projeter aussi dans d'autres manières de faire famille, dans d'autres manières de penser sa parentalité, sa maternité, comme le font ben, du coup ces femmes qui font des PMA hors couple et qui s'entourent donc de personnes autour d'elles pour les aider finalement dans leur maternité. Je crois que ça enlève beaucoup de pression aussi, notamment dans cette trentaine. Je crois qu'il y a une autrice qui vient de sortir un ouvrage qu'elle a appelé The Panic Years, les années de la panique, qui sont ces moments d'angoisse que beaucoup de femmes trentenaires connaissent quand voilà, elles sont célibataires ou qu'elles n'ont pas trouvé forcément la personne romantique avec qui elles voudraient fonder une famille et qui sont du coup dans une recherche perpétuelle finalement de ce futur père, de cette future mère pour fonder leur famille avec cette idée qu'on nous a appris qu'il n'y avait qu'un seul espace souhaitable finalement pour penser le fait d'enfanter, le fait de concevoir un enfant et pouvoir se dire bah en fait non, je vais arrêter d'enchaîner tous ces dates ratées, de forcément m'accrocher dès qu'une petite relation commence un petit peu à fonctionner, même si elle est un petit peu déceptive, parce que sinon peut-être que je vais louper le coche avec cette horrible horloge biologique dont on nous rappelle toujours voilà, qu'elle fait tic-tac au-dessus de nos têtes, et de se dire bah non, en fait, je peux penser peut-être un chemin qui serait hors du couple romantique. Et moi, je raconte des personnes dans l'ouvrage qui, par choix ou parfois par contrainte, se sont retrouvées seules dans la parentalité, mais en fait n'étaient pas seules. Elles se sont entourées, s'est déployée autour d'elles une vraie constellation, encore une fois, de personnes qui les ont aidées, qui ont pris soin de leurs enfants, qui les ont déchargées de certains poids, qui parfois les ont accompagnées dans la grossesse, parfois au moment de l'accouchement. Et c'est aussi très fort, ces témoignages-là, d'un accouchement qui peut se faire pas uniquement avec le conjoint, mais qui peut s'ouvrir aussi à d'autres personnes de l'entourage, avec ce que ça a de politiquement puissant aussi, que cet espace-là de l'accouchement, mais aussi après du postpartum, etc., soit décloisonné, en fait, sorte aussi de l'espace très resserré de la famille et du foyer, avec ce que ça a de caché aussi, de tabou. Et là, en fait, se joue notamment, voilà, dans ce que je raconte de cet accouchement avec une femme et deux de ses amies, se joue aussi un partage de savoir, en fait, finalement, sur les conditions de l'accouchement, sur ce qui se passe après l'accouchement, sur les premiers pas dans le parentage qu'on partage, sur lequel on discute, sur lequel on bouge ensemble. Et je crois que c'est très enthousiasmant.
Oui, puis ça permet aussi de libérer la parole sur le sujet de qu'est-ce que c'est que ces premières années qui vont être assez intenses. Et donc, on a vraiment besoin de beaucoup de gens autour de nous. Et je mettrai l'exemple des marraines et des parrains. Alors là, vous pouvez les choisir autant que vous voulez dans vos cercles. Et moi, j'ai la joie d'être marraine d'une petite fille. Et j'avais dû expliquer à un employeur, à un ex-employeur, que oui, j'allais accompagner ma filleule à un rendez-vous médical. Et j'avais dû justifier tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un ex-employeur, alors que vous faites ce que vous voulez de vos congés, en fait. Hein. Moi, j'avais dû le justifier. Et il m'avait dit, mais je comprends pas, c'est ta filleule, elle a donc a priori des parents, oui, et ils sont pas disponibles tous les deux à ce moment-là, non. Et donc toi, tu t'es rendu disponible pour ta filleule, oui. Et elle était tombée de sa chaise, elle ne comprenait pas que je puisse prendre cette place-là. Et pour moi, les enfants, vous en avez forcément autour de vous, vous avez pris cette place-là, c'était sans doute un choix pour certains d'entre vous. Et bah pourquoi on ne pourrait pas en parler aussi au travail? Bah demain, je ne suis pas là parce que je m'occupe de tel enfant qui est important pour moi. Et ce n'est pas le mien, mais il fait partie de ma vie. Et donc, je lui consacre de l'énergie et du temps. Et c'est super, il faudrait le valoriser, en fait.
Mais oui, je trouve ça fou à quel point on a intellectualisé l'idée que, et ancré dans le marbre, l'idée que le soin aux enfants devait se faire vraiment dans le giron seulement de la famille nucléaire, notamment dans le giron de la famille biologique, des deux parents. Mais pourquoi, en fait, d'autres personnes, d'autres adultes référents ne pourraient pas venir prendre part, justement, dans l'éducation de l'enfant et être reconnus aussi à part entière dans cela, dans ce témoignage que je raconte de cette femme qui a été accompagnée par ses amis lors de son accouchement. Ses deux amis ont fait la nuit d'accouchement avec elle, et au petit matin, elles sont parties, elles sont allées au travail. Finalement, elles n'ont pas eu de possibilité de poser, d'avoir un congé alors qu'elles avaient accompagné, tel que l'aurait fait un conjoint, finalement, leur ami pendant toute la nuit de l'accouchement. Elles n'ont même pas osé demander, finalement, à leur employeur, m'ont-elle dit, comme si ce n'était pas un accompagnement valable, comme si elles n'avaient pas participé à la même hauteur qu'un conjoint, en fait, finalement, à cet aplat de la vie. Et je crois que ça raconte beaucoup, comment on relègue aussi toutes nos autres relations au second plan, comment la loi, comment les milieux professionnels ne permettent pas de les penser comme des liens signifiants qui peuvent aussi structurer nos vies. Je pense aussi au fait que, par exemple, on ne peut pas avoir de congé au décès d'un ami. Je crois que ça raconte beaucoup ça aussi, que dans nos sociétés, pouvoir bénéficier d'un rapprochement professionnel géographique, en fait, ce n'est possible qu'avec le conjoint, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là qui montrent que tout est construit, encore une fois, autour du duo romantique, et la parentalité est aujourd'hui beaucoup pensée aussi dans cette chose très resserrée où la famille serait simplement dans son pavillon individuel, que ce seraient les parents uniquement qui devraient avoir la charge du soin et puis surtout toutes les responsabilités de l'enfant, avec cette idée presque aussi de propriété, en fait, qui est très forte, je trouve, en France. C'est mon enfant, c'est moi qui décide des choix de vie pour mon enfant, et lui doit se plier aussi, voilà, à mes desiderata, parfois même à mes souhaits, à mes rêves, enfin, de combler des rêves, par exemple, que j'aurais pas pu réaliser moi-même. Alors que je crois qu'en fait, on gagnerait à sortir de cette seule bulle-là, très, très resserrée, très, très refermée, parfois étouffante aussi, qui crée de l'isolement dans les familles, qui fait que pour les parents, je pense que c'est très lourd à porter aussi, le soin des enfants uniquement à deux, et notamment pour les femmes dans les cellules conjugales hétérosexuelles, puisqu'on sait que les femmes ont encore aujourd'hui largement, statistiquement, la charge des tâches parentales, des tâches éducatives, et peuvent se sentir vraiment très, très seules, en fait, finalement, dans cette tâche-là. Et puis, je crois aussi que dans ce modèle-là de la famille resserrée sur elle-même, qui a rompu avec l'idée de la famille élargie, de la parentèle élargie, qui en fait était plus répandue par le passé, puisque la famille nucléaire est une invention plutôt récente en Europe, eh bien, c'est un risque. C'est un risque qui en fait, je crois aussi, un haut lieu de violence, finalement, cette famille resserrée sur elle-même, puisque les violences peuvent se passer à huis clos, sans relais extérieur. Mmh. Et voilà, on gagnerait vraiment énormément à sortir de ce seul schéma-là.
D'autant que dans les schémas psychologiques, on sait à quel point les parents vont avoir une importance dans la formation de la psychologie de l'enfant. Et en fait, plus on a de référents différents, plus cette diversité va apporter des choses, de la richesse aux enfants. Effectivement, si vous avez plusieurs référents, moi je sais que le complexe d'Œdipe, j'ai la sensation, c'est mon ressenti, de ne pas l'avoir fait sur mon père, parce que je suis dans un blocage par rapport à mon père, donc je me raconte cette histoire-là. Mais plutôt, mais peut-être parce que j'étais en adoration et j'ai encore des photos de l'adoration que je lui portais, pour un de mes oncles. Et ma mère était très contente aussi que j'ai ce référent-là, qui pouvait m'apporter plein de choses au niveau culturel, qui avait de grandes ambitions pour moi, alors que mon père en avait peut-être, mais ne les verbalisait pas. Et donc, je trouve que c'est effectivement une richesse pour les enfants d'avoir plein de référents différents et des gens à qui ils peuvent parler si, par exemple, ça ne se passe pas bien à la maison, tout simplement.
Et l'afroféministe Bell Hooks le racontait extrêmement bien, notamment dans « À propos d'amour », All About Love, où elle raconte comment, dans son foyer violent, dans sa famille nucléaire qui était marquée par beaucoup de dysfonctionnements quand elle était petite, ce sont les relais extérieurs, les personnes de sa famille plus élargie, de la communauté plus élargie, qui lui ont permis, en fait, finalement, de voir que ce qui se passait à l'intérieur de son foyer n'était pas normal et lui ont permis de reprendre souffle à un moment où elle se sentait en partie détruite. Et elle plaide beaucoup justement pour l'élargissement plus large de la famille. Et je crois que les personnes qui justement pensent le soin aux enfants plus seulement à l'échelle du couple romantique, mais à l'échelle d'un groupe d'amis, eh bien, prennent vraiment au sérieux cette idée-là d'une éducation plus partagée, d'une éducation plus collective des enfants, avec cette idée qu'un enfant est plus riche justement d'avoir plusieurs adultes référents autour de lui, de pouvoir avoir plusieurs personnes à qui se confier sur des choses parfois différentes, plusieurs modèles aussi sur lesquels se reposer. Moi, je trouve ça vraiment enthousiasmant.
On a évoqué tout à l'heure le sujet de vieillir ensemble collectivement, donc avec nos amis. Ça peut être aussi des membres de la famille éloignée, si vous vous sentez proche de tel ou tel cousin ou cousine, etc. Moi, en tant qu'aidante, je l'ai précisé à plusieurs reprises dans Single Jungle, je le refais ici. Donc moi, j'aide ma maman et mon papa qui ont des problèmes de santé, maladies chroniques, vieillissement, perte d'autonomie. Donc tout le combo qui fait notamment potentiellement que je n'ai pas eu le temps, la fenêtre de tir pour imaginer faire des enfants, parce que tout ça est arrivé quand j'avais 38 ans et que j'étais célibataire. J'étais célibataire depuis quelques années déjà. Donc, ce moment charnière où une femme, sans doute entre 35 et 40, se pose plein de questions sur la maternité, parce que horloge biologique, parce que blablabla. Ben moi, à ce moment-là, j'étais en plein dans la convalescence. Est-ce qu'elle va remarcher un jour? Donc, j'étais pas du tout là-dedans, pas le temps de cerveau disponible pour ça. Pour les histoires d'amour, c'est compliqué parce qu'il faut quelqu'un qui comprend que je ne suis pas dispo aussi facilement que quelqu'un d'autre. Et tout ça, je l'ai accepté, ça fait partie de ma vie, j'ai du temps consacré, du temps et de l'énergie à mes parents. C'est comme ça. Et mes 5 frères ne participent vraiment pas tous autant que moi, clairement. J'ai mon petit frère, heureusement qu'il est là, je touche du bois, tant qu'il est là, on peut quand même s'entraider. Et donc, je me rends compte qu'en tant qu'aidante, j'ai eu la chance d'avoir des amis pour me soutenir psychologiquement, pour me faire penser à autre chose, pour quand j'avais besoin de pleurer, ils étaient là aussi. Et ils sont encore là, je pense à eux. Et je me dis, mais le jour où eux, ils ont besoin de moi, bah, je serai là aussi. Donc, on peut devenir les aidants de nos amis. Et je sais qu'il y a il y avait cette terreur qu'on nous a mis dans la tête assez tôt, mais vieillir seul, seul avec un E, tu n'imagines pas. Mais de toute façon, statistiquement, les femmes vont vieillir seules. Les hommes, dans un cadre hétéro, ben, ils seront morts avant. Parce qu'ils meurent de toute façon plus jeunes. Les morts stupides, les Darwin Awards, c'est des hommes. Les morts violentes, c'est souvent des hommes. Les accidents de la route, etc. Donc de toute façon, c'est une base. Mais pour autant, on n'est pas obligé de vieillir seul. On peut se dire, mais j'ai des soutiens, j'ai des amis, j'ai des gens sur qui je peux compter. Et par exemple, on parlait de profession tout à l'heure, c'est qui votre référent? Quel est celui que vous avez indiqué à votre RH, à votre employeur, si jamais il y a un problème vous concernant, vous avez un problème, un accident de travail, on ne sait pas, on appelle qui? Eh bien, moi, je n'ai pas voulu mettre ma maman parce que je ne veux pas l'inquiéter. Donc, j'ai mis un ami. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop de pression pour lui? Donc voilà, c'est quelque chose quand même qu'on peut envisager, ne serait-ce que quand on commence un nouvel emploi. C'est une des premières choses qu'on nous demande.
Oui, tu disais, est-ce que c'est pas trop de pression pour cet ami? Peut-être qu'on peut simplement lui poser la question. Je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre... Enfin, on nous apprend pas tellement, finalement, à demander quels peuvent être les contours de la relation en amitié, jusqu'où, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quelles sont nos limites. C'est intéressant aussi d'aller dans cette discussion-là qui nous permet d'entretenir nos amitiés, de faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir selon les besoins et les envies de chacun, avec toujours derrière ce que tu dis de très fort en fait de cette question du prendre soin. Cette question du soin, elle est centrale dans la question de l'amitié et notamment dans tous les témoignages que j'ai recueillis pour l'ouvrage. Cette idée qu'on prend soin les uns les unes des autres dans nos liens amicaux et que justement on peut trouver dans ces liens-là des espaces de force, des espaces de réassurance qui sont mutuels et qui permettent notamment pour des femmes qui sont habituées la plupart du temps à distribuer du care, à distribuer du soin sans tellement de rétribution dans le couple, dans la famille, en tant qu'aidant, parce que les aidants sont surtout des aidantes, dans le milieu professionnel aussi, puisque ce sont les femmes qui font majoritairement les métiers du care et aussi les métiers, du coup, qui prendront soin de nos aînés, qui prennent soin des personnes âgées aussi. Et bien, pour les femmes, pouvoir avoir ces espaces-là, pouvoir investir ces espaces d'amitié où elles sont aussi receveuses, en fait, finalement, du soin, je crois que c'est extrêmement politique, c'est extrêmement important, et c'est pourquoi il faut revaloriser ces liens-là, il faut valoriser ces espaces-là comme des amours valables, comme des amours puissantes, comme des amours qui nous émancipent.
Oui, qui sont des sources d'énergie très importantes et aussi les groupes d'entraide. Là, je pense à Aidants et Bien Plus, qui est un groupe sur Facebook, qui existe aussi sur d'autres réseaux, qu'on trouve assez facilement dès lors qu'on cherche le sujet des aidants et on se rend compte à quel point des fois on n'a pas forcément besoin de solutions concrètes, on a juste besoin de vider son sac, de dire là mon père il fait chier là. Là, l'Alzheimer, c'est quand même relou. Et encore, je suis au début, donc j'ai besoin de vider ce qui s'est passé aujourd'hui d'énervant. Je fais mon poste et puis je vais avoir des commentaires, tiens, je suis passée par là, il y a ça, ce truc-là qui a peut-être marché, tu pourrais essayer. Donc, ce truc-là, il est, je dirais, presque vital pour la santé mentale, parce que si vous restez seul avec cette charge qui est énorme, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Donc, si c'est compliqué auprès de vos amis de vous exprimer, parce qu'il y en a qui se disent « mais oui, mais comme il n'est pas aidant ou elle n'est pas aidante, peut-être elle ne va pas comprendre », en fait, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Tu as une charge, c'est une charge familiale, en fait, c'est ça. Donc, ouais, essayez de trouver les bonnes personnes à qui parler. Et sinon, sur les groupes, je vous mettrai toutes les références sur le sujet. Et donc, pour moi, vieillir ensemble, ça va aussi, évidemment, peut-être que c'est un sujet peut-être très logique parmi les personnes queer. Depuis longtemps, et je pense que c'était aussi le cas quand le sida a été découvert, il y a eu toute cette entraide, notamment par rapport aux hommes gays qui étaient très touchés. On a vu, et c'est su, et maintenant on en parle un peu plus, les lesbiennes ont été là pour les aider, pour les soutenir, pour se battre aussi contre les administrations qui ne faisaient rien dans les hôpitaux, etc. Le milieu queer avait peut-être compris en amont qu'il était indispensable de trouver des soutiens pour s'entraider, avoir ce soutien physique, mental, Et puis, aller jusqu'au bout, comment on va vieillir ensemble, en fait ?
Oui, parce que dès très jeunes, en fait, les personnes queer sont soumises à des rejets, des violences, puisqu'elles sont exclues aussi de facto du modèle, du sacro-saint modèle de la famille nucléaire. Il leur faut trouver très rapidement dans leur vie d'autres lieux, d'autres espaces de refuge, de soutien pour se partager du soin, de l'affirmation, de la réassurance, pour créer des familles choisies autour d'elles. Et justement, les communautés queer ont beaucoup investi ce concept de la famille choisie, et notamment un concept qui émerge dans les années 80 pendant l'épidémie de sida, quand les personnes queer ont eu besoin justement de se former des familles électives autour d'elles, en marge, voire contre les liens de la famille biologique, qui était souvent source de violence, source de rejet, quand ces personnes ont été aussi extrêmement marginalisées justement pendant l'épidémie de sida. Et oui, je pense que les communautés queer ont vraiment été à l'avant-garde sur la question de l'amitié, sur l'exploration de toute la force qu'on peut trouver dans des liens qui ne sont ni des liens biologiques, ni des liens inscrits à l'état civil, à toutes les étapes de la vie, dès très jeune, quand on a besoin d'aller à la rencontre de son identité individuelle, de son identité collective, et que les cercles queer peuvent être des mines, finalement, de compréhension et de découverte de soi. Et puis, plus tard, dans le vieil âge, avec l'idée qu'on peut finalement peut-être vieillir à plus que deux, qu'on peut peut-être trouver d'autres plans vieillesse qui ne se résument pas uniquement à la question soit de vieillir seul chez soi, soit dans l'EHPAD avec tout ce qu'on sait de ce modèle qui a beaucoup failli, qui entraîne beaucoup de maltraitance. Et voilà, il y a des personnes queer, mais pas uniquement aujourd'hui, qui décident de se dire, on peut repenser nos vieux jours à plusieurs, entre amis, et qui donc trouve aussi des réponses, je trouve, extrêmement pragmatiques et extrêmement utiles sur cet enjeu du siècle, qui est aussi le vieillissement de la population. Mmh. Et comment on fait du coup pour repenser les solidarités autour de nous dans le vieil âge.
Et comment on va faire pour se loger aussi, hein, c'est totalement lié. Je sais que Geoffroy de Laganerie en parlait dans son livre 3 sur l'amitié, parce qu'il avait été choqué, il en a reparlé sur France Inter, il a bien fait, que pendant le confinement, le premier, mais ça n'a pas été beaucoup mieux après, n'étaient pas reconnus ces liens d'amitié forts. Et donc, quand on voulait aller voir sa famille, si on n'était pas marié ou enfant d'eux ou machin, c'était très compliqué. En fait, il fallait parfois, plus ou moins, ne pas respecter la consigne pour pouvoir voir son meilleur ami ou un de ses amants ou de ses amantes. Enfin, vous mettez les mots que vous voulez, mais quelqu'un qui est important pour vous, mais vous voulez aller le voir et c'est quoi la case qu'il faut cocher ? Qu'est-ce que je fais ? Alors qu'une personne, c'est son enfant, c'est sa femme, c'est son ex-femme, il n'y a pas trop de soucis. Donc, il y a ces sujets-là. Bon, c'était le confinement, il fallait s'organiser. Mais ça n'a pas été pensé à l'époque.
Oui, et puis ça montrait vraiment comment on pense au second plan, encore une fois, tous les liens qui ne sont pas les liens productifs, entre guillemets, mais pas forcément entre guillemets, les liens liés à la famille biologique qui crée des héritiers, qui crée de la descendance, qui crée du travail domestique gratuit aussi, et qui donc sont valorisés, versus des liens qui ne sont pas productifs, donc les liens d'amitié notamment, qui donc pourrait être sacrifiable, pourrait être laissé sur le bas-côté. Et je pense que oui, le Covid a vraiment mis en lumière cela, mais a aussi mis en lumière toute la souffrance, en fait, finalement, qui a découlé aussi de cette relégation des liens qui ne sont pas les liens du foyer pour les personnes qui ne vivaient pas ensemble, entre amis, et notamment pour des personnes plus marginalisées, comme les personnes queer le sont, mais pas uniquement. Le fait de ne plus pouvoir finalement voir leurs amis, ça a été parfois une vraie souffrance, un moment de solitude immense, avec tout ce que ça a d'extrêmement dangereux, la solitude, parce que je rappelle que la solitude est extrêmement pathogène, elle crée des maladies, elle est extrêmement dangereuse, et nos sociétés contemporaines, pas uniquement pendant le Covid, hein, mais de manière générale, dans cette construction aujourd'hui de sociétés atomisées, crée de la solitude. Et je pense qu'on gagnerait vraiment justement à recréer du lien social et que c'est vital en fait finalement pour nos sociétés.
Donc peut-être ça peut être un bon exercice de se dire sur qui vous pouvez compter aujourd'hui. Alors ça va faire le tri, hein, et c'est pas grave, mais peut-être vous pouvez vous poser la question du j'ai un un déménagement, j'ai un meuble à aller chercher. Il y a des gens sur qui je pourrais compter, d'autres un petit peu moins. Pour les parties fun, c'est plutôt un tel, un tel, un tel. Et pour les parties où vraiment j'aurais besoin de soutien, soutien moral, eh ben, est-ce que j'ai mon petit groupe vraiment qui est fort ? Moi, je sais qu'on avait un groupe WhatsApp, comme plein de gens, pendant le confinement, où on se faisait juste un coucou tous les jours. On se montrait un petit peu, pour certains, l'état de délabrement au niveau des cheveux. On s'est rendu compte à quel point cette profession des coiffeurs et coiffeuses était importante en termes de soins. Et puis, sinon, on se racontait des bêtises, on parlait du film qu'on allait regarder en Netflix party le soir même ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment important pour trois personnes célibataires, pas forcément dans les mêmes quartiers, mais qui avaient l'habitude de se voir, de dire mais là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir, donc il faut qu'on trouve un moyen de tenir. Et ce groupe est toujours là, on continue à se parler quotidiennement. Donc, à vous de trouver vos soutiens. Mais comme c'est dit dans le livre et dans de nombreuses études, il y a des moments de la vie où les amitiés se délitent un petit peu. Donc, on disait même, bon, maintenant, on était jeunes, on avait le droit de passer beaucoup de temps ensemble. Et puis, il y a cette espèce d'injonction qui arrive. Maintenant que vous avez un certain âge, bah, vous consacrez un peu moins de temps à l'amitié. Alors qu'en fait, bah, on revient au propos du début, ça peut être un vrai choix stratégique et positif,
oui,
de continuer à chérir ses amitiés parce que ces personnes seront toujours là alors que les autres, pas forcément.
Oui, et puis parce qu'on sort renforcé, enrichi aussi de reposer sur plusieurs piliers affectifs différents, mais ce qui n'est vraiment pas aisé en fait de pouvoir entretenir différents piliers affectifs différents, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah en fait rien dans nos sociétés ne nous encourage à faire cela, donc c'est vrai que je veux pas recréer non plus une nouvelle injonction à avoir toute une bande autour de soi ou avoir des amitiés fusionnelles hyper intenses qui bouleversent toute notre vie, parce que en fait l'amitié peut être comme l'amour romantique, bah, ce n'est pas si simple que ça à créer, surtout dans nos sociétés, encore une fois, qui créent de la solitude, qui ont rompu avec la création de liens sociaux, où on s'est beaucoup plus éloigné des logiques communautaires, notamment, et ce qui fait qu'on est face, dans nos sociétés contemporaines, et je pense qu'il faut le dire, c'est important aussi pour déculpabiliser toutes les personnes qui seraient aujourd'hui à un moment de leur vie où, bah, en fait, elles ne savent pas si elles peuvent reposer sur un groupe d'amis vraiment solide, où elles s'interrogent sur leur lien d'amitié, est-ce qui peut en découler, sur le soutien qu'elles peuvent y trouver. Bah, aujourd'hui, on est face à ce que des chercheurs appellent une épidémie de solitude dans nos sociétés occidentales, qui crée énormément de souffrances et qui, je crois, découle en réalité de politiques publiques, en fait, finalement, qui ont créé aussi cette solitude-là en nous poussant à nous renfermer sur le pavillon individuel qui nous a été vendu dans les années 80 comme l'accomplissement, l'idéal d'une vie, en démantelant encore une fois les logiques communautaires. Vraiment, il y a des études qui montrent très clairement comment ces espaces communautaires ont décliné ces dernières décennies, comment les Occidentaux passent beaucoup moins de temps à interagir avec des amis en physique. Et je crois que c'est extrêmement révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi repenser à de manière pas seulement individuelle, mais vraiment collective, à comment revaloriser nos liens d'amitié, à comment pouvoir les nourrir et les entretenir, bah, c'est fondamentalement politique.
Oui,
et
puis il faut accepter aussi la rupture amicale. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une année où je ne vois pas passer des articles sur la difficulté de gérer une rupture en amitié, que c'est parfois plus dur qu'une rupture amoureuse, parce qu'on a les codes pour une rupture amoureuse. Et rupture amicale, parfois, on n'accepte pas, on ne comprend pas pourquoi on souffre autant. Alors qu'il y a une logique, hein, on a investi beaucoup, c'était une personne chère, on imaginait plein de choses, on projetait plein de choses. Et puis, des fois, c'est net, c'est définitif, on n'aura plus jamais de nouvelles de la personne. Alors moi qui garde des liens un peu partout, je tisse ma toile, donc j'imagine pas quelqu'un qui me dirait mais c'est terminé, je veux plus jamais entendre parler de toi, alors qu'on a partagé des choses. Mais bon, bah, je finirai par accepter. Mais je pense que en termes social, il serait compliqué, notamment au niveau professionnel. À ce moment-là, vous posez des congés, mais de dire bah voilà, j'ai besoin de quelques jours parce que ça va pas en ce moment. J'ai perdu quelqu'un. On dirait bah c'est un décès. Non non, c'est une rupture. Bah c'est une rupture amicale. Je pense qu'il y aurait des yeux
Bah oui.
Écarquillés.
Oui. Parce que rien dans nos imaginaires, même dans les fictions, en fait, finalement, on n'a jamais vraiment de fiction sur nos ruptures amicales, alors qu'elles peuvent être vraiment extrêmement douloureuses, mais on n'a personne pour venir nous consoler, même après une rupture amicale, pour venir avec un gros pot de glace, comme dans les films, pour nous consoler après de telles ruptures. Et je pense que, comme on manque de narration sur l'entretien de nos amitiés, sur comment faire perdurer des amitiés, sur les différents chemins que peut prendre une amitié, on manque aussi de narration, en fait, finalement, sur les ruptures d'amitié, sur comment une relation amicale peut s'arrêter, sur les mots qui peuvent être posés. Parce que parfois, je pense que comme on ne nous apprend pas finalement à faire ces ruptures-là, on laisse un petit peu la relation se déliter d'elle-même. Parfois, on en vient presque à du ghosting, qui est vraiment disparaître de la vie d'une personne sans avoir posé les mots, sans avoir dit clairement, notre relation ne me convient plus, je souhaiterais qu'on arrête. Eh bien, ces pratiques-là de ghosting, par exemple, elles sont extrêmement douloureuses, elles sont dévastatrices parce que la personne en face ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, il n'y a pas de point final finalement à la relation. Et alors oui, si des auteurs de fiction nous écoutent, je pense qu'il est grand temps de s'emparer de cette question-là et de nous présenter des imaginaires sur les amitiés en action et puis sur les amitiés qui se terminent.
Ouais, c'est une bonne idée. Pour finir, est-ce que tu aurais une association, quelqu'un que tu as envie de pousser, de mettre en lumière? Ça peut être plusieurs.
J'en ai déjà un petit peu parlé là dans le podcast, mais j'aimerais beaucoup mettre en lumière le travail de Talma Desta, qui est un auteur transféministe qui a écrit notamment Désirée à tout prix, que je trouve un essai extrêmement puissant et extrêmement intéressant, qui rebat beaucoup de cartes et qui parle aussi d'amitié. Et puis, pour avoir parlé de l'invisibilité culturelle de nos amitiés dans nos fictions, peut-être c'est intéressant de citer une référence culturelle qui nous permet justement de voir des amitiés très fortes. Et je pense à la série Pose de Ryan Murphy, qui raconte justement des amitiés extrêmement fortes dans les communautés queer des années 80, dans la scène ballroom de New York, avec notamment cette amitié entre Blanca et Preitel, qui est pour moi une des amitiés les plus belles qu'on puisse, une des relations d'amour les plus belles qu'on trouve en fiction. Ce sont deux personnes qui se sont accompagnées à la fois dans les moments de joie, dans les moments presque familiaux, qui ont réinventé des rituels, et puis qui se sont aussi accompagnés dans les moments plus difficiles, de maladie, mais aussi qui se sont montrés intransigeants l'un avec l'autre pour se dire les vérités que parfois on a du mal à entendre. Et voilà, je pense que c'est vraiment une image de l'amitié extrêmement puissante et émancipatrice, et je vous encourage à aller regarder Pause.
Merci beaucoup Alice.
Merci à toi.
Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de podcast et balades aux diffusions. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Merci à ceux et celles qui ont déjà mis des étoiles, des notes, des commentaires. Ça aide à faire remonter le podcast dans les classements. Et merci aussi à ceux et celles qui ont participé au Tipeee, qui aide à payer l'hébergement et le montage de ce podcast. Merci, à très bientôt.